Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, des prières et des hommes.
Bon, longuement enseigné sur la prière en elle-même. Mais moi, je voudrais vous parler des hommes qui prient. Et nous avons certainement des choses à relever et à apprendre de la manière dont les hommes prient. Si vous me permettez, je dirais ceci, mais il n'y a absolument pas de préjugés. Je transformerai cette parole que vous connaissez, ce proverbe, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Et je dirai simplement ceci, « Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui tu es ». Écouter les autres prier est quelquefois très intéressant. En tous les cas, ça ne doit pas seulement être intéressant, mais ça doit être aussi inspirateur. Et nous avons pour preuve l'impact que Jésus a laissé sur ses disciples. Lorsqu'un jour, il nous est rapporté cela dans Luc, chapitre 11, il nous est dit qu'un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et je pense que nous avons dans la démonstration de la prière que Jésus nous laisse, eh bien, de quoi nous inspirer ce matin. Et nous sommes aussi inspirés par des frères et des sœurs qui prient, qui louent le Seigneur. Alors, c'est intéressant de considérer le sujet. Et je dirais simplement que prier, c'est le miroir de l'âme. Oui, miroir du cœur, de notre vie intérieure, de notre vie profonde. Un miroir. J'ajouterais ceci, c'est que chaque chrétien a sa prière qui lui est propre. Les uns et les autres, nous avons eh bien une personnalité, une identité spirituelle. Et nous faisons la démonstration, consciemment ou inconsciemment, j'espère inconsciente, hein, parce que la prière n'est pas une parade, mais de ce que nous pouvons laisser sur les autres. Et nous avons des intonations, nous avons un vocabulaire, nous avons une tonalité, nous avons une expression de notre vie spirituelle qui nous est propre. Il y a ceux qui prient spontanément à n'importe quel moment et quel que soit l'endroit. On a connu, on connaît des frères et des sœurs qui ont une telle densité de vie de prière que vous les mettez dans n'importe quelle situation, quand il s'agit de prier, ils prient. Et puis, c'est quelque chose d'assez étonnant, hein, sans préambule. Et puis d'autres, finalement, n'ont pas ces talents naturels au monde intérieur de la prière. Et quelque part, ils y parviennent en déployant beaucoup d'efforts. Hein, c'est peut-être le cas le plus fréquent dans les enfants de Dieu. Et c'est pas facile. Ce n'est pas simple. Alors je voudrais vous dire, je vous demande de ne pas vous décourager, mes frères et sœurs, qui peut-être éprouvez ce genre de sentiment qui vous retient et qui vous amène tout simplement, à peiner, à souffrir pour prier. Mais est-ce à dire que l'une est plus spirituelle que l'autre? Il faut raison garder dans tout cela et ne pas être trop précipité dans nos jugements. J'aimerais simplement, avant d'aller un peu plus loin, rappeler l'essentiel de la prière de la foi. Et je vais vous la rappeler sous la forme d'une histoire. Une histoire peut-être que vous connaissez. Il y avait un grand roi de Macédoine dans l'Antiquité qui s'appelait Alexandre le Grand et qui voulait récompenser un soldat valeureux. Alors, il lui a dit tout simplement « Tu peux me demander tout ce que tu veux que je te donne. » Il n'y avait pas de limite. Demande, et moi je te le donnerai. Alors, ce soldat a pris cette offre au sérieux et il a réclamé au trésorier royal une somme, alors attendez, hein, de 10 000 livres d'or. Je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais c'est quelque chose de considérable pour l'époque. Lui, il s'est dit, on me demande de demander, moi je demande. Et il a demandé une somme considérable. Et devant l'énormité de la somme, alors le trésorier d'Alexandre le Grand s'est présenté devant le roi et il a dit « Moi, j'ai refusé, hein, parce que c'est trop, il a demandé trop. » Et la chose s'est conclue de cette manière, c'est que quand le trésorier royal lui a dit « Voilà, ce fameux soldat à qui tu as fait les promesses, eh bien, il va piller le trésor, c'est pas possible. » Alors le roi a écouté finalement le compte-rendu de ce comptable et il a répondu « Donne ce que te demande ce soldat parce qu'il m'a honoré de trois manières. Tu lui donnes ce qu'il te demande parce que moi le roi, eh bien, il a fait la démonstration à travers tout simplement eh bien, de trois manières différentes. D'abord il a cru à ma parole. Il a cru à ma richesse et il a cru à ma bonne volonté que je ferai comme je le lui dis. Est-ce que vous croyez que c'est quand même un bon résumé de la prière de la foi? J'ai trouvé ça excellent, cette petite histoire. Et est-ce que ce n'est pas la foi que nous exprimons dans nos prières, dans sa parole, sa promesse, dans sa richesse? Et que notre Dieu tient toujours parole. Alors, ceci dit, il s'agit du fond, là, la prière de la foi. Et, à vrai dire, notre manière de prier, maintenant, que nous allons aborder, c'est la forme. La forme et son contenu qui reflètent notre tempérament dans la prière et notre approche avec Dieu, notre caractère avec le Seigneur, notre tempérament. Il ne s'agit d'aucune manière d'imiter ou de vouloir prier comme. S'il y en a un que nous pouvons prier comme, c'est Jésus. On l'a vu tout à l'heure. Mais on a chacun, et je tiens à le répéter, notre caractère, notre personnalité. Prier, c'est d'être conscient de ce que l'on est devant Dieu, nos forces autant que nos faiblesses. Oui, il faut le dire. C'est-à-dire être soi-même, et de développer cette relation spirituelle dans l'équilibre. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, équilibrés. Et s'il y a quelque chose qui doit pouvoir en donner la preuve, c'est notre approche de Dieu dans la prière. Il y a parfois des gens qui sont rentrés dans nos assemblées, qui sont sortis aussitôt. Parce que ni la prière, ni la louange, ni l'adoration n'avait plus rien à voir avec les enseignements de Jésus. On ne marche pas au plafond, on ne crie pas, on ne hurle pas, on ne se roule pas par terre, et on ne fait pas n'importe quoi. On est d'accord? Parce que si nous voulons gagner des âmes, si nous voulons que des hommes se sentent bien quand ils rentrent dans une réunion où la prière est présente, où la louange est présente, où les cantiques sont présents, inspirés par le Saint-Esprit, eh bien le meilleur moyen pour les faire fuir, c'est de faire n'importe quoi. On peut se mettre aisément à la place de gens qui rentrent pour la première fois. Donc, le principe premier, c'est l'équilibre. Ça ne veut pas dire que nous soyons, eh bien là, finalement, calcifiés, que nous ne puissions plus rien faire. Au contraire, sous l'inspiration de l'Esprit, et on sait reconnaître ce qui vient de l'Esprit et ce qui vient de la chair. Nous allons examiner quelques types de caractères, de prières, qui nous permettront peut-être de nous reconnaître dans un sens, et certainement de mieux nous connaître aussi. Nous reconnaître et nous connaître, et cela sans parti pris. Je voudrais également dire qu'il nous faut d'abord laisser les recettes et les méthodes toutes faites, qui sont qu'une illusion. La prière, c'est Dieu qui l'inspire. La prière, c'est Dieu qui la suscite par son Saint-Esprit au fond de notre cœur. Alors, les recettes et les méthodes, je pense que c'est quelque chose, à mon sens, qui est infantile et primaire. L'Esprit est plus grand que tout ça, on est d'accord. Si la prière est un miroir, elle reflète l'être et non le paraître. Et vous savez que Jésus nous a laissé des enseignements extrêmement importants que l'on appelle le sermon sur la montagne par rapport à la prière. Et il va stigmatiser d'une manière très vigoureuse l'attitude de prière des pharisiens, qui n'était pas l'être, mais qui était le paraître. Vous connaissez, lorsque tu pries, ne crie pas dans les rues, tu te mets debout, etc., au coin des... pour être reconnu, pour être vu et applaudi des hommes. Donc, on est bien aussi sur le fait. Il y a un premier type de caractère de prière qui représente des chrétiens. Ce sont les chrétiens sentimentaux, ceux qui ont l'aptitude de savoir mieux que d'autres ressentir Dieu dans son amour. Alors on les appellera sentimentaux, parce qu'ils ont ce feeling, ils ont cette sensibilité de ressentir la présence de Dieu ou le Seigneur lui-même dans son amour, et leur relation avec lui est une communion d'amour. Et ça se sent. Et ça fait du bien. Parce qu'on sent qu'il y a là quelque chose qui est tout imprégné, eh bien, de la connaissance qu'ils ont du Seigneur. Ils savent que Dieu est un Dieu d'amour. Le tressaillant de leur vie de prière se manifeste par une approche affective, personnelle et chaleureuse. Et on a du plaisir à entendre ses frères et ses sœurs qui prient de cette manière. Parce que notre relation, elle est là, quelque part. C'est vrai dans ce sens. Ils aiment prier comme on parle à un confident. Et ils peuvent venir en confiance, nous l'avons lu tout à l'heure, quand il est dit « nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance ». Et ils savent le faire. Donc, ils s'adressent à un ami, ils s'adressent à un confident. Cependant, comme il y a toujours les défauts des qualités, et il faut les souligner, cependant, ces tempéraments sont plus axés sur l'émotion et la subjectivité qu'objectif. Ce qui provoque parfois chez eux, ou chez de telles personnes, qu'ils ont le sentiment à l'intérieur, puisque beaucoup de choses marchent avec le sentiment, avec donc la subjectivité. Alors, à ce moment-là, cela peut provoquer chez de tels individus que Dieu les aime quand elles vont bien, et qu'elles croient que Dieu les rejette quand elles vont mal ou quand elles ont fait le mal. Donc on voit que les choses sont complètement renversées. C'est Dieu qui dirige du haut du ciel, ce n'est pas nous qui dirigeons le Seigneur. Et ça, c'est le problème de la subjectivité, quand il n'y a que subjectivité. Et il faudrait que, parfois, eh bien, nous demandions à Dieu qu'il nous donne d'être un petit peu plus objectif. Et on a souvent vu, et peut-être nous le ressentons nous-mêmes, ce que je dis, c'est une vérité, c'est un lieu commun, nous pouvons dire cela comme cela, c'est qu'elles s'approchent du Seigneur et tout va bien quand elles sont bien. Mais si elles ont commis quelques fautes, quelques erreurs, ou que les choses vont mal, alors elles pensent que Dieu à ce moment-là les rejette. Moi je voudrais vous dire une grande vérité que vous connaissez déjà, il faut qu'elle soit vraiment imprégnée dans notre cœur, c'est que Dieu nous aime toujours et en tout temps. Ouais. Parce que si nous attendons d'être au top, alors là, on ne va pas pouvoir prier souvent. Dieu aime toujours, il aime sans cesse, il aime en tout temps. Il y a un beau personnage qui représente cette catégorie de gens, c'est Marie. Vous savez, Marie qui est aux pieds de Jésus, elle se délecte, elle est remplie là dans l'amour du Christ, de sa présence. Alors ça va bien à ce moment-là. Mais vous savez, au moment de l'événement de la mort de son frère, alors que Marthe se précipite spontanément vers Jésus, elle reste dans la maison à pleurer. Et elle n'ose même pas sortir. Vous voyez ? Parce que là, tout va mal. Et elle dit, c'est pas possible, le Seigneur n'est pas là, le Seigneur a certainement, il a permis que mon frère meure, etc. etc. Vous voyez, cette oscillation qu'il peut y avoir entre, au fond de nos cœurs, ces jugements que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu. Alors mes frères et mes sœurs qui êtes dans cette situation, eh bien, approchez-vous du Seigneur en confiance, sans crainte. Et n'écoutez pas trop votre cœur, parce que ça peut nous jouer des tours. Il y a les natures logiques, ce que j'appellerais les cérébraux, les tenants de la raison. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, on est en train de faire un panorama un petit peu de... le paysage, en quelque sorte, du monde, des hommes et des chrétiens. C'est une autre catégorie de croyants en prière. Leur démarche sera moins le sentiment, donc la subjectivité, mais entrer en contact avec Dieu, ça sera pour eux la recherche d'idées, la recherche d'une conduite, de savoir-faire, par l'esprit naturellement, chercher à comprendre, à pénétrer la pensée divine. Mais ces gens aussi seront plus enclins à perdre le sens de la spiritualité affective, voire même le miraculeux, parce qu'ils rationalisent. Et leur prière a un caractère tout à fait particulier. Ils sont aussi agréables à entendre. Mais là, c'est le contraire, c'est l'objectivité. Et ils interprètent les choses d'en haut, avec la raison des hommes. Enfin, jusqu'à une certaine proportion, naturellement. Et ils risquent de perdre, justement, ce sens de cette spiritualité du cœur, et du miraculeux. Et quand on les entend prier, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ils le normalisent, on pourrait dire. Et parfois, eh bien, leur prière peut avoir un petit peu cette distance, ce côté froid, carré, parce que leur rapport avec Dieu, c'est un rapport aux règles, c'est un rapport à la loi, c'est un rapport au système. Je ne veux pas dire que c'est mal, je vous ai dit que ce n'était pas un jugement de valeur. Nous sommes en train d'étudier les caractères. Alors, ça transpire à travers l'expression de leur prière. Je pense à un homme qui avait un petit peu ce tempérament, bien qu'il ait aussi tout le reste. C'était l'apôtre Paul. Ah oui. Il était capable d'avoir beaucoup d'affection, beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotion. Mais je pense que ce qui ressort, c'est ce qui fait que quelque part, l'approche de la personnalité de Paul est un petit peu abrupt quand même. Il passait pas par quatre chemins. Il était comme ça, l'apôtre Paul. Il y a une troisième catégorie, ce sont les croyants du genre intuitif, qui ressemblent peut-être au premier, et en prolongement, non seulement intuitif, mais mystique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que c'est que ce tempérament? Eh bien, on le retrouve un petit peu dans l'apôtre Jean. On l'a appelé l'apôtre de l'amour. On sait qu'il a des gestes tout à fait marquants quand il repose sa tête sur la poitrine de Jésus. Et il y a donc cette intuition, cette forme de mysticisme qui peut-être n'est pas mauvais en soi lorsqu'il est réglé par l'esprit. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité accrue au mystérieux. Certains... On verra quand on sera là-haut. Mais d'autres, ils veulent savoir avant. Donc, une sensibilité au mystérieux, à la révélation, voire même à l'extase. Et pour corriger la tendance, lorsqu'elle s'en va un petit peu sur les côtés, alors pour corriger cette tendance, eh bien, qui peut faire d'eux finalement des êtres éthérés, alors ils doivent non seulement s'attacher aux réalités présentes, c'est-à-dire que l'avenir, c'est bien. Le Seigneur seul connaît l'avenir. Mais il y a des choses qui sont importantes, c'est l'aujourd'hui, le présent, et de rester naturellement, comme vous connaissez l'expression, les pieds sur terre. Quelquefois, dans certains cas, nous avons à dire à certains ou à certaines, du calme, on est encore là. Donc il faut apprendre à pouvoir gérer tout cela. Et il y a une nécessité pour ce type de personnalité, le discernement des fonctions entre l'âme et l'esprit. L'âme, c'est notre identité, notre personnalité interne. Et puis l'esprit, eh bien, c'est ce que Dieu nous a donné pour être en communion avec lui. Il faut que véritablement l'esprit, conduit par le Saint-Esprit de Dieu, gère notre âme. Et on le sait, parce que nous en souffrons les uns et les autres d'une manière ou d'une autre, souvent, c'est notre âme qui gère l'esprit. Avec des bouchées de toutes sortes de choses, dans un sens ou dans un autre. Tant peut-être dans le plaisir que dans la souffrance. Et cette âme est difficile à maîtriser. Parce qu'elle est entre le corps et entre l'esprit. Et elle doit pouvoir finalement avoir une fonction d'équilibre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Alors elle se manifeste plus ou moins en fonction des, de ce que nous sommes, naturellement. Il y a une quatrième catégorie, je les appellerai les chrétiens pragmatiques, c'est-à-dire pratiques, qui ont le sens du concret, qui sont toujours entreprenants et réactifs. Ceux-là auront à faire l'effort de se laisser toucher par l'esprit. Parce qu'ils sont tellement en prise directe avec la réalité, avec les choses de ce monde, de la vie en quelque sorte, c'est pas un mal en soi, eh bien c'est véritablement de laisser Dieu agir, de se laisser, entre guillemets, toucher par le Saint-Esprit de Dieu. Et de devenir plus accessible à des attitudes plus nuancées. C'est-à-dire, notamment, savoir patienter, savoir réfléchir avant d'agir. Vous avez remarqué qu'il y a certains tempéraments qui partent, comme on dit, au quart de tour. Et puis après, ils s'aperçoivent que finalement, eh bien, s'ils avaient attendu un petit peu, ça aurait été un peu différent dans les résultats. Donc, il y a aussi ce caractère. Et nous avons un exemple qui est certainement un des plus connus dans le Nouveau Testament. Je l'ai appelé Pierre l'énergique. Ouais, je ne sais pas s'il prenait de la vitamine ou avec quoi il entretenait sa vie, mais alors, c'est un homme qui avait l'habitude de tirer les filets, en tous les cas. Alors, ça, c'est des tempéraments comme ça, Pierre l'énergique, qui prend tout à bras le corps. Ah, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va y aller. Je peux vous dire que vous pouvez lui faire confiance. Il va le faire à votre place, avant que vous lui demandiez. Et c'est ce qui s'est souvent passé avec Jésus. Jésus a été obligé de plusieurs fois de le rattraper parce qu'il courait devant. Ah, il a fait des expériences aussi, Pierre. Il a appris les choses, et comme nous allons en apprendre aussi, naturellement. J'ai parlé de miroir tout à l'heure. Miroir, avons-nous dit. L'important, et c'est quand même, il faut que vous écoutiez ça, mes frères et sœurs, l'important est d'être conscient de sa personnalité à chacun. Est-ce qu'on se connaît vraiment, réellement? C'est moins sûr. Il y en a qu'un qui nous connaît bien. À l'endroit, à l'envers, c'est le Seigneur. Mais est-ce que nous nous connaissons bien? Quelquefois, ceux de notre entourage nous connaissent mieux que nous connaissons nous-mêmes. Et quand ils nous disent « tu es comme ça » en disant « mais c'est pas vrai, tu racontes des histoires » et ça fait des fâcheries et des disputes, parce qu'on ne l'accepte pas naturellement. Enfin, naturellement, ou peu importe, mais enfin, toujours est-il bien se connaître sa personnalité. Cette personnalité dans ce qu'elle a de particulier et d'unique. Vous savez, moi, je bénis le Seigneur et je le bénis tous les jours de ce que nous sommes différents les uns des autres. Ah ouais, c'est d'ailleurs dans la nature, dans la création, tout est multiple, tout est divers et tout est diversifié. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a parlé déjà dans différents messages que dans la création végétale, la création animale, dans les espèces, dans les catégories même, il y a malheureusement, rien ne se ressemble. Et c'est formidable. Et chez les hommes, c'est pareil. Et je crois que Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous nous apportions quelque part de ce qu'il a mis en nous, de ce qu'il nous a fait particulier et unique. Et de là, si nous comprenons cette chose, être prêt à accueillir les richesses des autres, je parle toujours de la prière, dans leurs différences. Ouais. L'Église historique et traditionnelle a normalisé la prière. Elle a fait des livrets de prière. Et tout est bien réglé. Il n'y a pas de défaut. Tout est conditionné, tout est fait de cette manière. Mais je crois que nous, dans le mouvement de l'esprit qui est le nôtre, nous avons besoin de manifester ce que nous sommes les uns et les autres, dans notre amour et notre foi au Seigneur, en fonction de ce que nous sommes. Et c'est ce qui donne la vie, quelque part. C'est ce qui apporte la vie. Alors, d'accueillir, de faire accueil aux différences des richesses que les autres possèdent en se gardant de les juger ou de les mesurer à nos propres critères. Ah oui, il ne prie pas comme moi. Ah, comme si moi, je priais et que j'étais la norme. Ah oui, il ne prie pas comme moi, bien sûr. Et moi, je dis merci Seigneur qu'il ne prie pas comme moi. Le langage, le vocabulaire, l'expression, la manière de ceci et cela, tout en restant naturellement. Je parle toujours de la prière inspirée, pas de la prière qui vient de l'âme et du cœur et qui n'a plus rien à voir avec la spiritualité, on s'entend là-dessus. Alors naturellement, cette attitude, ça s'appelle la tolérance. Et la tolérance, quand on regarde un peu son explication, c'est une expression de l'amour de l'autre. Eh oui, c'est aussi manifester son amour pour l'autre. Nous allons passer, si vous voulez bien, à une autre réflexion liée à la prière. Il ne s'agit plus de personnalité particulière, mais plutôt de ressenti de ce que nous pouvons vivre. Je voudrais vous parler de la paresse et de la démotivation dans la prière. Alors la paresse, ça peut toucher peut-être beaucoup de choses. La démotivation aussi. Je ne dis pas pour ceux qui ne prient plus. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas un désintérêt pour ce que c'est que la prière. Mais quelquefois de ceux qui sont encore dans la course de la prière, mais qui n'ont pas envie forcément de faire l'effort. Ou alors ils sont démotivés. Il peut y avoir l'envie de prier au fond de notre cœur, mais on en diffère toujours ou sans cesse le moment de commencer. On se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Dans une réunion de prière type celle du mardi ou du mercredi, on se retrouve ensemble et on se dit, ce soir, je vais prier. Je sais pas, j'ai passé une bonne journée, je vais prier. Je ne sais pas si c'est tout à fait convenable de penser comme ça. C'est pas parce qu'on a passé une bonne journée qu'on va prier. Hein. Mais je vais prier, ça y est, c'est résolu, Seigneur, je vais prier. Puis vous en entendez 3, 4, 5, 6, une dizaine qui passent devant vous. C'est terrible. Alors vous voyez la fin de la réunion de prière, le pasteur dit on va ouvrir notre Bible pour terminer par un petit. Puis vous dites ah ben non, et vous repartez complètement déconfit. Vous dites mais je venais pour prier et je n'ai pas pu prier. Alors ça serait plutôt de. On va en parler tout à l'heure, mais on parlait de la crainte et de la démotivation. On a du mal à commencer à prier. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a des gens qui prient n'importe où, dans n'importe quel endroit et qui prient spontanément comme ça. On les admire, hein, quelque part, parce qu'on se dit comment ils font. L'obstacle principal, finalement, à cette démoralisation, parfois même à cette paresse dans laquelle nous pouvons tomber à un moment ou un autre, c'est que nos pensées sont un champ de bataille entre l'esprit et la chair. Et croyez bien qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus, c'est l'apôtre Paul. Et on ne peut pas dire que c'était un chrétien en dessous des normes spirituelles. C'était un homme, un géant de la foi et de la prière, l'apôtre Paul. Et il écrira, il dit, mais quand je veux faire, eh bien, je fais le contraire. C'est dans Romains chapitre 7. Hein. Et il va véritablement livrer un combat. C'est sûr que c'est un combat par rapport au péché dont il parle, par rapport à sa nature, par rapport à toutes sortes de choses. Mais nous pouvons le comprendre également parce qu'il nous l'explique bien. Il dit, mais j'ai l'aspiration dans l'âme intérieure, mais quand finalement, eh bien, c'est le moi qui reprend le dessus, ben, je peux pas y arriver. Un combat de toujours dans bien d'autres domaines. Un combat permanent. Je veux, mais je ne peux pas. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous voulez. N'est-ce pas? Et vous allez me dire, mais je peux pas. Ben remarquez, comment on fait, nous? Ce matin, j'aurais pu me dire, ah, je dois apporter le message. Oh, j'ai pas envie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je mets un CD, je vous le passe. Je mets ma photo ici, tranquille, et moi, je vais à la pêche. Eh ben, vous savez, hein. Que nous passions une bonne ou une mauvaise nuit, que nous ayons des soucis ou pas, il faut y aller. Parce que bah, vous attendez un petit peu quand même, hein, non? Et puis mes frères qui prêchent, c'est pas la même chose? Vous savez, on n'est pas toujours en bon état. Hein. Quelquefois, on n'est même pas bien du tout. Et on se dit, on y va ou on n'y va pas? Remarquez, vous nous rendez service parce que vous êtes là, je suis obligé de venir. Mais quand même, vous savez, hein, si on doit attendre certaines choses, bah, on ne le ferait pas. Hein. Alors, il faut s'empoigner, hein, c'est tout. Et il y a cette parole qui peut avoir d'autres significations, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça, c'est aussi la Bible qui nous le dit. Il y a trois sortes de personnalités qui éprouvent de la difficulté à se lancer à prier. Et on peut se reconnaître. Il y a les perfectionnistes, les idéalistes. Peut-être que vous en faites partie, hein, je ne sais pas. Les perfectionnistes, où rien n'est jamais assez bien, et que les conditions pour prier ne sont jamais assez bonnes. Ah ouais, faut que ça soit au top. Mais attendez, ça va être dur, hein ? Parce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de notre cœur, une telle idée, une telle persuasion que, eh bien, il faut que ce soit vraiment comme nous le pensons. Mais est-ce que le Seigneur attend cela quelque part ? Il attend que nous prions, tout simplement. Et ces perfectionnistes sont connus pour être, a dit quelqu'un, pour de mauvais commenceurs, parce que souvent ils gênent, ils plaignent, en disant « Seigneur, mais tu vois, le monde il est ceci, le monde il est cela, et puis les crédits allaient comme ça, et ceci, cela. » Ce sont des mauvais commenceurs, mais de redoutables finisseurs. Parce que dans leur prière, il y a toujours quelque chose qui transpire, c'est un jugement très sévère. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui l'a écrit, un psychologue chrétien. Mais cette observation, tout simplement. Il y a les craintifs, alors peut-être que vous allez dire, alors ça me convient. Enfin, je sais pas, hein. Il y a les timides. Il y a les dépressifs, quelque part. Vous savez, quelquefois, on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour être... On a des tendances, on peut avoir des moments dans la vie où nous sommes un petit peu en déprime. Hein. Et croyez bien que, je voudrais vous le dire, c'est pas une tare, hein, quelquefois, de passer par des moments difficiles et de dire, eh bien oui, je passe un peu par la dépression. Parce que c'est une maladie comme une autre, et le Seigneur va nous aider. Hein. Moi, je voudrais vous encourager. Hein, parce que ça nous arrive peut-être plus souvent qu'on ne pense. Et plus souvent que vous le pensez. Donc, les craintifs, les timides, les dépressifs, pour lesquels commencer à prier, c'est une torture. Ça va être mon tour. Et surtout que le pasteur ne me demande pas de commencer la réunion, de terminer la réunion. Aïe, aïe, aïe. S'il me le demande, alors je suis dans tous mes états, j'en ai avoir pour 3 jours à me relever. Vous savez comment je fais ? Moi, je vise, bam, 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 je dis celui-ci, ce sera son tour, etc., etc. Croyez bien, c'est pas comme ça que je procède. Non, non, rassurez-vous, hein, quand je vous regarde, c'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier. Non, mais vous savez l'impression que l'on peut avoir et tout cela. Hein. Alors, ça devient une torture. Parce qu'il y a un phénomène qui se met en route, c'est le doute. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je vais trouver les bons mots ? Est-ce que je vais ceci et ce... Ils sont sensibles, ces gens-là, au « quand dira-t-on ? » Ah, peut-être qu'il y a un frère qui va me dire « bah, dis donc, ta prière, elle n'était pas formidable. Hein. Moi, si on me demandait à moi, ça aurait été autre chose. » Alors là, ça, c'est d'orgueil. Hein. Sensible à la dépréciation des autres, mes frères et mes sœurs. Quand vous entendez quelqu'un prier, n'allez pas lui faire du mal après. Surtout quand c'est la première fois. Il faut être bienveillant. Si nous devons intervenir... On va le faire, mais n'allez pas tuer ce qui commence. Quelquefois, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « j'ai essayé de prier », et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit « oh, dis donc, un héros ». Et puis après, les gens, ils n'ont jamais pu prier. C'est dommage. C'est dommage, hein, comme quoi, eh bien, on peut contrarier, finalement, l'œuvre de Dieu. Il y a les croyants, qui sont certainement les plus nombreux, les croyants qui ont compris que la discipline, je dis bien la discipline, l'habitude, donc l'expérience de prier, et pas seulement prier dans les réunions comme nous avons, mais de prier chez soi. Donc c'est un ensemble. L'expérience de prier est une plus grande force que l'envie. Vous avez entendu ? Une plus grande force que l'envie. Quelquefois j'ai pas envie, mais parce qu'il y a la discipline, parce qu'il y a l'habitude, parce qu'il y a l'expérience, alors à ce moment-là, même si j'ai pas envie... puisqu'on parlait de paresse et de démotivation tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, ça va prendre le dessus. Et je vais prier. Et la question que nous pouvons nous poser, mais qui est la suivante, dois-je attendre d'avoir envie de prier pour prier ? Voilà. Alors dites-moi. Là, je vois que vous me faites des grands sourires, et je me dis à la prochaine réunion... Alain, il va certainement se souvenir de moi. Ouais. Est-ce que vous devez attendre d'avoir envie ? Non. Quelquefois, il y a des choses dans la vie, des choses qui sont indifférentes à notre existence. Quelquefois, on mange, on n'a pas envie de manger. Hein. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on est malade, et c'est souvent lié quelquefois à une pathologie, hein. Pas forcément grave. Mais on se dit, ben, il faut que je fasse. Vous avez envie d'aller travailler demain matin après un week-end de 4 jours ? Non. Bon, voilà, ben moi c'est clair. C'est clair. Enfin, il faudra s'expliquer avec le patron. Ouais. Eh bien, vous allez y aller quand même. Exactement. Voilà. Et la prière, si on a le choix avec la prière, parce que Dieu nous laisse libre, mais à ce moment-là, il ne se passerait rien du tout. Il ne se passerait rien du tout. Un autre aspect des choses, toujours dans le domaine de la prière, c'est l'impression de lourdeur, la somnolence et l'apathie. Ça revient un petit peu à ce que nous avons dit précédemment, mais avec peut-être quelques nuances. Certains individus éprouvent le besoin de ressentir plus ou moins fortement la présence de Dieu. Et ils se disent, ah, le Seigneur est là aujourd'hui. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Bon, c'est doctrinal, hein. C'est pas une très grande théologie, mais c'est quand même la vérité. Alors, ils ont besoin de sentir fortement la présence de Dieu pour se mettre à prier. Ils disent, oh, ben, ce soir, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas l'esprit. Il fallait qu'ils viennent avec. Hein. Ben oui, parce qu'une réunion de prière, ça se prépare. Hein. On ne vient pas pour prier, pour se faire du bien dans la réunion de prière, on vient pour apporter quelque chose à la réunion de prière. Donc on vient rempli, on ne vient pas vide. On vient rempli pour donner aux autres. Alors, naturellement, ils ne peuvent commencer que quand ils ont cette impression. Ce sont les impressifs qui fonctionnent à l'impulsion, qui fonctionnent à l'ambiance, qui fonctionnent au souffle, et qui vous disent tout émoustillé, « Ah, je sens l'esprit aujourd'hui. » Mais l'esprit est là. Le problème, c'est l'impression. Si vous regardez la signification du mot impression dans le dictionnaire, vous verrez ce que ça veut dire. Parce que la prière ne marche pas à la girouette, en fonction d'où vient le vent. Le vent, il est partout, il souffle où il veut, il va où il veut. Vous connaissez naturellement cette citation de Jésus. Pour illustrer cela, je prendrai l'image du soleil. Le soleil brille en permanence, vous le savez. C'est gris. Mais si vous prenez l'avion, vous allez voir que de l'autre côté, enfin au-dessus, il brille en permanence, mais ce sont les nuages qui nous le voilent, naturellement. De même, Dieu est toujours là. On en a parlé tout à l'heure. Et non seulement il est toujours là, mais il nous écoute quand on le prie. Il n'y a aucune prière, aucun mot qui n'est oublié. Les nuages sont souvent de notre ressort. Parce que vous savez, ils montent de la mer, hein, et après ils couvrent le ciel. Ils ont leur fonction et leur... Mais nos nuages à nous, quelquefois, ils montent de la terre, hein, de notre humanité, de notre côté charnel. Et ils peuvent être ces nuages de diverses formes et intensités. Ce peut être la fatigue, ce peut être le stress, également la déprime, on en a parlé tout à l'heure, les soucis, la mauvaise image de soi. Est-ce que je suis assez bien pour m'approcher du Seigneur? Les contrariétés. Et ça, ça fait comme une opacité entre Dieu et moi. Vous voyez ? Entre le soleil et les nuages, et puis moi j'y suis là, et voilà, tout simplement. Il y a encore un autre aspect que j'aimerais évoquer rapidement, ce sont les scrupules et les obligations. Certains rechignent à l'idée d'un temps de prière imposé ou auto-imposé. Et pourquoi ? Le cas se rencontre fréquemment chez des gens qui ont eu une éducation religieuse stricte et qui, par réaction, développent un réflexe allergique de tout ce qui est imposé et obligatoire. Alors, quand c'est obligatoire, ils se disent, eh ben, moi, je préfère faire autrement. Parce qu'ils ne supportent pas, et ça, ils sont marqués, il y a comme un traumatisme quelque part. Non pas que l'éducation que nous avons reçue, dans certains aspects, n'était pas mauvaise, prier Dieu, apprendre à prier Dieu, mais parce que c'était finalement imposé. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et on s'aperçoit quelque part que cette catégorie a besoin de sentir, excusez-moi, mais je vais le dire quand même, a besoin de sentir le désir et le plaisir de faire, mais en toute liberté, dans cette communion avec le Seigneur. Écoutez, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand on a été traumatisé, quand on a été moulé, conditionné, et qu'il y a des choses, des murs à l'intérieur de nous-mêmes, alors à ce moment-là, ça change les donnes de notre approche. Donc je dis bien le plaisir et le désir de me retrouver dans la communion avec Dieu, en toute liberté, comme, où et quand ils le veulent. Vivre la prière, ils veulent vivre la prière comme une relation où l'on peut se sentir à l'aise détendu et non pas comme un devoir rendu et corrigé. Et c'est vrai que là, c'est aussi un autre aspect des choses. Il y a la culpabilité maintenant. Je passerai rapidement parce qu'on pourrait en faire un message à part entière. La culpabilité, c'est-à-dire fuir la présence de Dieu quand notre cœur nous condamne à tort ou à raison. Il y a ce passage que j'aimerais relire dans 1 Jean, où il est bien parlé justement du phénomène de la culpabilité qui nous touche les uns et les autres, et assez souvent, semble-t-il, où il est dit ceci dans le chapitre 3 et au verset 19. Petits enfants, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Alors, il y a bien des choses que le Seigneur connaît. Il y a bien des choses qui appartiennent à notre vie secrète et que le Seigneur connaît, qui quelque part, eh bien, sont de notre nature, de notre tempérament, de notre caractère, en bien et en mal. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Rassurons-nous devant Dieu, parce que le Dieu qui nous voit, qui nous connaît, avec nos défauts, avec tout ce qu'il peut y avoir, même quelquefois de pas toujours très, très bien, lui, il s'est donné un objectif, c'est de nous changer. Et il ne va pas nous changer avec un coup de baguette magique. Alors on aimerait bien. Seigneur, j'ai un problème, j'aimerais bien que ça parte d'un seul coup comme ça. Vous savez, hein, on n'aura pas trop d'une vie pour que le Seigneur rectifie et nous reprenne sur son tour de potier pour nous refaire un vase d'honneur. Alors si notre cœur nous accuse, je dis bien à tort et à raison, eh bien Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que quelquefois nous avons des frères et des sœurs qui pleurent devant le péché, devant leur péché, devant des situations et tout ça, qui voudraient bien s'en sortir, et qui se disent « Mais Seigneur, comment je peux faire ?» Et devant cela, ils se disent « Mais moi je suis pas bien. Je ne peux pas m'approcher de toi, je ne peux pas te louer ce matin, je ne peux pas bénir ton nom. Le Seigneur est plus grand que notre cœur. Laissez-le faire, faites-lui confiance. » Oh, c'est le drame de tout le monde. Un autre point, c'est le manque de concentration dans la prière. Les interférences sur la ligne. Vous savez, il y a des lignes téléphoniques, ça ne marche pas toujours très bien, hein. Surtout quand vous êtes couplé avec un pack, là, vous savez. Enfin, j'en ai des mauvais souvenirs, c'est pour ça que je vous en parle. Ça grisaille. Ça grésille, voilà. Oui, ça grésille. Ah oui, je sais que. Les interférences dans notre vie de prière, ce sont des pensées volées. Oh là là. Je me mets à prière et je pense à autre chose. Seigneur, c'est pas vrai, je suis parti, hein. Mon âme me fait mal et mon cœur me fait mal, j'ai des pensées déchirées aussi. Alors que je devrais tout entier à la prière et puis je suis déchiré. Il y a le bruit, voilà, les bruits qui sont à l'intérieur de moi-même, puis il y a les bruits qui sont à l'extérieur. Il y a les échéances en tout genre. Je m'aperçois au moment où je suis en train de prier, je veux me mettre à prier, je me dis tiens, j'ai telle facture à payer, j'ai ceci, cela, j'ai tel rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et vous mettez à penser à ce moment-là, pas à d'autres moments. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui.
Payez vos impôts, attention. Il y a les disputes aussi, les querelles, dans les foyers, dans les couples, entre mari et femme, avec les enfants. Vous savez que la vie n'est pas facile quand même. C'est vrai que c'est pas simple, hein. Le support du caractère de l'autre, quelquefois des comédies, des fantaisies, toutes sortes de choses qui vous arrivent à ce moment-là, eh bien, ils sont tous destructeurs de la communion que nous pouvons avoir avec Dieu. Et avant de terminer, il y a deux catégories qui se distinguent. Il y a ceux dont les stimuli extérieurs vont les aider à se concentrer et à trouver l'inspiration. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça dépend de la sensibilité que vous avez dans votre âme, mais lorsque vous êtes devant un beau paysage de mer, là on n'a pas très loin à faire, hein, ou alors devant des belles choses, la montagne, la nature, contemplation de la nature, ça élève l'âme et on a envie de dire « Mais merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. » Et d'en profiter aussi pour prier pour les autres. Maintenant, ça a aussi l'effet contraire. C'est qu'au lieu de regarder véritablement au Seigneur, vous regardez que tout ce qu'il y a autour de vous. Mais des stimuli extérieurs qui peuvent donner envie de prier. Ouais, moi, ça m'arrive. Hein, on se met là dans un endroit charmant et on prie. Moi, la voiture, hein, c'est quelque chose qui est très important pour la prière. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que les vitres sont, on voit à travers. Et quelquefois, eh bien, de passer un petit moment, passer un temps de prière. Alors, on regarde plus le paysage, mais dans ce moment. J'ai souvent considéré qu'on a passé énormément de temps dans la prière en voiture, dans nos déplacements d'abord. Ah, je me souviens de cette route qui faisait Angers-Cholet, je l'ai fait pendant 25 ans. Ça a été vraiment, vraiment, eh bien là, une route de prière. Ah, qu'est-ce que vous voulez, on n'avait pas regardé le paysage, on le connaissait, ça faisait 25 ans qu'on l'a fait. Eh bien, on en profitait pour prier avec ma femme. Il y avait une heure de route, hein, une heure pour aller, une heure pour revenir. Eh bien, on en profitait pour prier. Et je voudrais quand même vous rassurer, quand je prie en voiture et je conduis, je ferme pas les yeux. Et puis il y a ceux qui sont de nature anxieuse également, parce que la tension intérieure dont ils sont chargés les envahit. Ouais, ils sont dominés et ils ont mille peines à se reposer. Mieux. Ils ont mille peines à abandonner leur sort entre les mains du Seigneur. Et là, on revient au fond, on revient à la foi. En conclusion, prenons garde de ne pas juger hâtivement la prière d'autrui, surtout quant à sa forme. Il n'y a que le Seigneur qui peut savoir. À chacun de s'exprimer comme Dieu l'inspire, et selon la nature qui lui a été faite. Paul ne ressemble pas à Pierre et Marie ne ressemble pas à Marthe. On peut dire ça comme ça si vous voulez. Efforçons-nous à aider au développement de cette grâce qu'est la prière, comme quelqu'un l'a dit, elle est la respiration de l'âme. Ouais, je crois que c'est une très belle citation, une très belle parole. Elle est la respiration de l'âme. Et je termine simplement. Il nous est dit en Jésus-Christ, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande, et moi je vous le dis ce matin, mes frères et mes sœurs, c'est Alain qui le dit, ne vous découragez pas, ne perdez pas courage. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous aide. Amen.